France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés.
On dirait un morceau de bois calciné. C'est en fait un papyrus vieux de 2000 ans, complètement carbonisé, lors de l'éruption du Vésuve en l'an 79. Le rouleau est très fragile. Alors, pour découvrir les secrets qu'il renferme sans risquer de l'effriter, les chercheurs ont eu une idée ingénieuse. Le dérouler virtuellement grâce à l'intelligence artificielle.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. À l'aube de cette année nouvelle, je vous adresse, au nom de cette émission à laquelle vous êtes fidèles, mes vœux les plus chaleureux. Lorsque Voltaire s'attachait à l'histoire du monde, il avait l'habitude de magnifier sa majesté le hasard, comme il disait, en faisant un acteur décisif de siècle en siècle. Et comment le contredire ? Le rôle de la contingence est un sujet qui mérite toutes les curiosités. Moins simple d'ailleurs qu'il n'y paraît, car elle se greffe toujours sur des forces profondes. Nous allons l'aborder à propos d'un cas précis parmi bien d'autres possibles, en nous demandant selon quelle chance ou quelle malchance la littérature de l'Antiquité a pu survivre jusqu'à nous, ou au contraire, être perdue. La plupart des spécialistes estiment à 2 à 3% ce que nous possédons aujourd'hui de la production écrite des anciens Grecs. On prend la mesure de ce chiffre presque dérisoire si l'on considère par contraste l'influence que les écrivains de l'Antiquité ont exercée sur la civilisation au fil des siècles et jusqu'aujourd'hui, bien au-delà de la seule littérature. Et on ne peut que rêver à ce qui aurait pu changer en Occident si l'entièreté de ces écrits, y compris les scientifiques, avait été préservée. Maurice Sartre, savant hors de pair, que j'ai tant de plaisir à accueillir régulièrement à ce micro, s'apprête à éclairer pour nous cette précarité de l'héritage scripturaire de l'Antiquité gréco-romaine. Nous allons voir les copistes au travail, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils soient arabes, entre fidélité, erreur et aménagement. Nous allons tâcher d'apprécier ce qui a disparu, qu'il s'agisse d'auteurs entièrement ensevelis ou de ceux dont le corpus a été amputé. Nous allons enfin célébrer les autres chemins qui permettent d'accéder à des écrits qui nous seraient inaccessibles sans eux. Les papyrus, les palimpsestes ou encore ces milliers d'épigrammes d'auteurs anonymes que nous trouvons gravés sur les tombes et qui semblent lancer un appel ardent à notre soif de savoir. Et pour commencer, un extrait du film « Le nom de la rose » de Jean-Jacques Annaud, d'après le roman célèbre d'Umberto Eco, où il est question d'un manuscrit unique et très menacé.
Cela fait déjà plusieurs jours que je m'attends à ta visite, Guillaume.
Il vous a fallu des ailes pour arriver ici avant nous.
Tu as découvert bien des choses depuis ton arrivée dans cette abbaye. Mais en tout cas, les raccourcis du labyrinthe te sont encore inconnus. Alors, que veux-tu exactement ?
Je veux voir un livre grec qui, selon vous, n'a jamais été écrit. Un ouvrage entièrement consacré à la comédie que vous haïssez, autant que vous haïssez le rire. Je veux voir ce qui est probablement le seul et unique exemplaire du second tome de la poétique d'Aristote.
Ah, Guillaume, quel fabuleux bibliothécaire tu aurais fait.
Il y a beaucoup de livres qui traitent de la comédie. Pourquoi celui-ci vous inspire-t-il si grande peur ?
Parce qu'il est Aristote.
Mais vous n'éliminerez pas le rire en éliminant ce livre ?
Non, certes. Mais qu'adviendra-t-il si à cause de ce livre, l'homme cultivé déclarait tolérable que l'on rit de tout ? Pouvons-nous rire de Dieu ? Le monde retomberait dans le chaos. Ainsi donc, je scelle ce qui ne devait pas être dit dans la tombe que je deviens.
Maurice Sartre, bonjour.
Bonjour.
C'était donc un extrait du film Le nom de la rose de Jean-Jacques Haneau, qui était sorti en 1986 et qui s'inspirait du très célèbre roman d'Umberto Eco, datant lui-même de 1980. C'était Sean Connery qui interprétait le rôle de Guillaume de Baskerville, en particulier au centre de l'intrigue. Mais quelle est cette intrigue, Maurice Sartre ?
Oh, l'intrigue, elle est relativement simple. Ce moine vient dans ce monastère parce qu'il sait qu'il y a là un livre dont l'unique copie, un livre antique, en grec, dont l'unique copie se trouve dans ce monastère.
C'est le livre 2 de la poétique d'Aristote.
C'est le livre 2 de la poétique d'Aristote. Et ce livre unique, c'est du moins l'intrigue, est très menacé parce que le bibliothécaire du monastère juge tout à fait insupportable l'idée qu'Aristote, qui fait autorité dans tous les milieux intellectuels, on va dire, même si le mot est anachronique, du Moyen-Âge, il défend le rire, y compris, puisqu'il parle de la comédie en particulier, les comédies les plus graveleuses qui soient. Et donc c'est quelque chose d'insupportable pour ce moine.
Le bibliothécaire lui dit, le moine bibliothécaire, le Christ n'a jamais ri. Qu'en savez-vous ? Réplique Guillaume de Baskerville.
Exactement. Et donc, il vient pour consulter ce livre. Ce qui m'intéresse surtout dans cette affaire, c'est que cela nous montre que les intellectuels, là encore, le mot est anachronique, mais il faudra quand même accepter qu'on l'emploie.
Il remonte au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, au moment de l'affaire Dreyfus.
Sont obligés de se déplacer eux-mêmes, parfois sur des milliers de kilomètres, pour avoir accès à un livre qui existe dans tel ou tel monastère. Et c'est comme ça, finalement, jusqu'à l'invention de l'imprimerie.
On est loin d'Internet.
Il faut voyager. Donc, le livre est menacé parce que, évidemment, le bibliothécaire cherche à le cacher et, s'il le faut, à le détruire. Et en tout cas, j'en dis pas plus pour les gens qui, par hasard, n'auraient pas vu le film.
L'idée de notre émission m'est venue lorsque vous m'avez évoqué un jour, dans une conversation particulière, le fait qu'on avait retrouvé à Philadelphie, en 2022, 97 vers d'Euripide, plus une ligne de titre, dans 76 vers inédits, dans des conditions qui m'avaient frappé.
Oui, alors cette découverte, elle remonte effectivement à 2022, à Philadelphie d'Égypte, c'est-à-dire un site antique du Fayoum, qui est à peu près à 40 km au nord-est de Medinet El Fayoum, la capitale du Fayoum en Égypte, au sud du Caire. Donc, un petit morceau de papyrus dans une tombe, c'est pas pour une fois du cartonnage de momies ou des bandelettes, non. C'est vraiment un papyrus qui a été déposé là, probablement volontairement. Et il y avait donc 98 lignes exactement de grec qui ont été déchiffrées. Il se trouve que 22 vers étaient connus, parce qu'on s'est très vite aperçu qu'il s'agissait de vers. Les 22 vers étaient connus, c'était des vers d'Euripide. Donc on a très vite identifié les deux pièces dont elles étaient tirées. 37 lignes d'une tragédie qui s'appelle Ino et 60 d'une autre qui s'appelle Polyidos. Peu importe l'histoire précise de chacune de ces tragédies, ce que illustre cette découverte, c'est la fragilité de la transmission des pièces et des écrits, d'une manière générale, de l'Antiquité. Mais puisqu'on était dans le théâtre, je voudrais vous donner un chiffre qui, moi, m'a toujours beaucoup frappé. Au 5e siècle, dans les concours de tragédie à Athènes, on a représenté au moins 1200 tragédies. Or, on en connaît une poignée infime. On en connaît au grand maximum 32.
Et ce qui ferait ?
de 66% des pièces représentées à Athènes. On peut penser même que c'est un peu moins, parce qu'en fait, il y a probablement plus de 1200 pièces. Donc, on atteint là à peu près le chiffre, d'ailleurs, que vous avez donné tout à l'heure, entre 2 et 3% de la littérature antique. Les chiffres varient d'après les spécialistes. Il y a les optimistes qui pensent qu'on en a 10%, les pessimistes 1%, peu importe le chiffre. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes tributaires des copies antiques. Et ces copies antiques, elles sont extrêmement fragiles. Alors, pourquoi il peut y avoir des tas d'explications, bien entendu.
Ou le hasard, comme le disait Voltaire, un rôle.
Il y a le hasard. On en donnera quelques exemples. Il y a aussi le fait que, d'abord, faut pas l'oublier, tout est recopié à la main. Évidemment, il y a des ateliers de copistes depuis dans toutes les grandes villes, dans tous les centres intellectuels possibles et imaginables. Mais il y a des auteurs qui ont très peu de succès, qui n'intéressent personne, donc personne ne les recopie. Si vous avez qu'un seul manuscrit d'un écrit, quel qu'il soit, les chances de le perdre sont évidemment considérables. On s'en aperçoit par les fragments qu'on retrouve dans les tombes. En tête de tous les auteurs, Homère. Or, on sait que tous les Grecs lisaient Homère pendant toute l'Antiquité.
Et c'est pour ça qu'on les mettait avec les morts dans les tombes ?
Oui, parfois on mettait des écrits dans les tombes pour accompagner le mort dans l'au-delà. On savait pas très bien toujours ce qui allait se passer, donc on sait jamais, pour lui tenir compagnie.
C'est peut-être une idée à ressusciter aujourd'hui, pour lutter contre la crise du livre.
Peut-être. Je vous laisse la responsabilité, mais vous saurez trouver comment faire passer une telle mesure. Ça sera sûrement intéressant.
Ce qui est notable, c'est qu'il ne s'agit pas seulement, comme on le croit parfois, de littérature, mais tout l'ensemble de... Vous le relevez dans un de vos écrits, tous les domaines variés. Philosophie, histoire, éloquence politique ou judiciaire, tragédie, comédie, roman, mais mathématiques, astronomie, géographie, sciences naturelles, médecine, sciences religieuses. Et c'est pour cela que j'évoquais l'entièreté de la civilisation qui est...
Voilà. Même si on se borne aux Grecs, parce qu'on ne peut pas faire l'ensemble de tout ce qui a été écrit, mais la littérature, l'ensemble des écrits en grec comporte des livres religieux, juifs, chrétiens, par exemple. Et ça, il faut en tenir compte, bien entendu. Donc, cette littérature, ce que j'appelle littérature, c'est pas la littérature au sens où on l'entend, les romans ou la poésie, c'est l'ensemble des écrits, quelle que soit leur catégorie. La médecine, par exemple, tient une place considérable.
On a énormément de Galien et on a redécouvert de l'Hippocrate.
On a redécouvert de l'Hippocrate, mais Galien, à lui tout seul, semble-t-il, alors qu'on a perdu au moins la moitié de ses 130 traités. Galien, à lui tout seul, représente un huitième de l'ensemble des écrits grecs antiques conservés. Ce qui est énorme. Un rayon de bibliothèque, ça tient un huitième de l'ensemble du grec. Donc vous voyez que il y a des auteurs qui n'était pas forcément très populaire, je veux dire, lu par tout le monde, mais tous les médecins lisaient Galien, et on a lu Galien jusqu'au XIXe siècle.
Je voudrais que nous voyions successivement les différents chemins par lesquels ces œuvres ont pu nous parvenir. Et d'abord, évidemment, la copie. Comment est-ce qu'on a copié? Comment ont travaillé les copistes d'âge en âge avec les effets, évidemment, de déformations, d'erreurs qui ravissent nos savants d'aujourd'hui, puisqu'ils ont à les corriger? Ces erreurs même.
Il faut voir que lorsqu'un auteur écrivait, donc il écrivait soit sur du papyrus, soit sur du parchemin, ça peu importe, laissons les aspects proprement techniques, et il donnait immédiatement son texte à copier à des copistes. La survie des copies tenait beaucoup au succès de l'œuvre. Est-ce que ça intéressait quelqu'un d'autre? Est-ce que quelqu'un voulait les avoir pour lui? Et puis, il faut bien rappeler qu'à partir du IVe siècle avant notre ère, commencent à apparaître des bibliothèques dans les milieux des tyrans, c'est-à-dire des monarques. C'est d'abord une institution, j'allais dire, de type royal, la bibliothèque. Avant Alexandre, les premières bibliothèques commencent avant Alexandre, et puis bien entendu... Je rappelle la fondation de la bibliothèque d'Alexandrie au début du IIIe siècle. Les premières bibliothèques, on les trouve chez des tyrans d'Asie mineure, dès le IVe siècle.
Alors Ptolémée II, il accomplit un acte intéressant.
En créant cette grande bibliothèque. Alors, le problème, après, eux, comment ont-ils fait? Mais ils ont agi, d'abord ils ont fait copier beaucoup tous les livres qui passaient à Alexandrie. Il paraît, c'est des anecdotes, mais il y a peut-être bien un fond de réalité, que on prenait tous les livres qui se trouvaient sur les bateaux pour les faire copier. Et puis, on raconte même que Ptolémée II avait demandé aux Athéniens de lui envoyer les manuscrits originaux des grands tragiques grecs. Et, dit-on, il aurait renvoyé des copies à Athènes.
Donc, éventuellement déformées.
Alors, pas forcément déformées, mais en tout cas, les Athéniens se trouvaient privés, en quelque sorte, de l'original. Et donc, ces copies ont constitué, finalement, une masse de livres qui fait que on savait qu'à Alexandrie, on avait les chances de trouver tous les livres grecs qui existaient, le plus possible. Donc, je ne vais pas m'étendre sur les bibliothèques. Pergame rivalisait. Mais ce qui est intéressant, c'est que les bibliothécaires ont eu des stratégies parfois très différentes les unes des autres. Par exemple, à Alexandrie, les passages difficiles de certaines œuvres, parce qu'entre parfois, on avait déjà plusieurs copies, ça pouvait arriver. Or, il y avait des divergences. Ou bien, il y avait un mot qu'on ne comprenait pas. Les gens d'Alexandrie, les bibliothèques d'Alexandrie, avaient tendance à couper en disant... Ça, on comprend pas.
Néfaste paresse.
Voilà. Tandis que les bibliothécaires de Pergame, eux, avaient tendance, au contraire, à garder les deux copies en disant, on ne sait pas très bien quelle est la meilleure. Donc, ça a joué un rôle dans le tri. De même que c'est à Alexandrie que souvent on a découpé les œuvres en plusieurs livres, en 24 livres, par exemple. Ou en davantage. Et puis, le rôle des grammairiens est extrêmement important, parce qu'ils ont corrigé. Mais en même temps, on a aussi, et ça se répand à l'époque hellénistique, fait des anthologies, des choix. Et du coup, on a gardé parfois l'anthologie, mais on a fait disparaître le manuscrit original complet d'une œuvre.
Et notamment pour les besoins de l'enseignement.
Les besoins de l'enseignement, et puis aussi parce que, j'allais dire, c'est le défaut des gens cultivés qui aiment bien faire des citations pour briller en société, mais dans le fond, ils se moquent à peu près de connaître le livre tout entier, pourvu qu'on ait les bons mots. Tout ça a contribué probablement à faire disparaître une partie de la littérature existante, encore une fois au sens des ouvrages existants, soit parce qu'on les jugeait périmés, soit parce que on estimait que la langue était mauvaise ou pas intéressante, etc. Et donc il y a déjà un premier tri qui se fait, je dirais, en fonction des goûts du public.
Avec aussi une censure de ceux qui ont le pouvoir d'utiliser des ciseaux.
Il peut y avoir un problème de censure.
Par exemple, il y a le cas du fameux décret de Julien l'Apostat en 362 qui voulait interdire l'enseignement aux chrétiens et qui, par conséquent...
Oui, ce qui était d'ailleurs de sa part très injuste, parce que, au contraire, les chrétiens, très longtemps, ont sauvegardé une grande partie de la littérature païenne. Il suffit de lire la lettre de Basile aux jeunes gens sur l'utilité des lettres classiques. Basile de Césarée, évêque de la fin du IVe siècle, et qui défend donc absolument l'idée que la littérature tout entière est le patrimoine commun des chrétiens et des païens. Alors, tout le monde n'a pas raisonné comme lui, quand même. Et il y a effectivement des œuvres qui ont probablement disparu, censurées, mais... N'exagérons pas trop cet aspect-là, parce que, après tout, on connaît aussi Aristophane, qui n'est pas vraiment un modèle de vertu qu'on devrait recopier dans les monastères, mais par des copies faites par les moines au Moyen-Âge, moines chrétiens.
Le bibliothécaire au nom de la rose devait détester Aristophane.
J'imagine, c'est probable. Mais donc, il y a bien un patrimoine qui se transmet... par les copies. Donc, à partir du stock de copies qui reste à la fin de l'Antiquité, il y a des copies qui se font, qui se perpétuent en fonction des intérêts des uns et des autres. Ce patrimoine transmis par les copistes, il va se transmettre de siècle en siècle. Donc il ne faut pas imaginer que nous possédons des copies dans les bibliothèques monastiques de manuscrits de la fin de l'Antiquité. Beaucoup, la plupart des manuscrits qui ont survécu jusqu'à l'invention de l'imprimerie sont des manuscrits du XIIe, XIIIe, XIVe, voire encore XVe siècle. Donc c'est des copies de copies de copies, avec tout ce que cela peut entraîner d'erreurs, de fautes, de rajouts, parfois aussi de lacunes. Et ces manuscrits sont souvent accompagnés de commentaires, ce qu'on appelle des scolies, qui permettent parfois de corriger, dans un sens ou dans l'autre, un texte qui n'est pas toujours simple.
Au moment de la Renaissance en particulier, on voit surgir une activité spécifique. Ce sont les chasseurs de manuscrits qui vont partout tâcher de débusquer ce qui échappe encore à la connaissance.
Alors, il est certain que pendant tout le Moyen-Âge, il y a eu des gens qui ont cherché plus ou moins à se procurer des livres. Mais c'est vrai qu'au XIVe, XVe siècle, et encore évidemment plus tard, il y a une vraie recherche permanente de manuscrits nouveaux. Est-ce qu'il n'y aurait pas dans les fins fonds des bibliothèques des manuscrits que personne n'a lus? Et donc on envoie des tas de gens lire, visiter les bibliothèques, notamment dans la partie grecque, ex-grecque maintenant, presque entièrement musulmane, de la Méditerranée orientale, dans les grands monastères comme le mont Sinaï, Sainte-Catherine du Sinaï, le mont Athos, mais bien d'autres encore dans toute la Méditerranée orientale.
C'est ce dont témoigne cet entretien avec Nicolas Ducimetière, qui était vice-directeur de la fondation Martin Bodmer en Suisse, et qui évoque ces chasseurs de manuscrits à l'époque au tournant du Moyen-Âge et de la Renaissance. C'est un extrait de LSD, la série documentaire de Perrine Kervran sur France Culture en octobre 2018.
Il y a eu au Moyen-Âge et puis surtout après à la Renaissance, dans ses débuts, une catégorie de bibliophiles mercenaires qui sont vraiment des chasseurs de livres qui vont partir en mission à travers le bassin méditerranéen pour essayer de grappiller, souvent à la demande de grands mécènes, de grands bourgeois, de prélats, mais également de princes temporels, comme par exemple les Médicis. Ils sont envoyés à travers le bassin méditerranéen, souvent en direction du Proche-Orient ou des restes, des lambeaux de l'Empire byzantin, afin d'aller donc grappiller ces reliquats de la culture gréco-latine sous forme de manuscrits qu'ils vont collecter dans les bibliothèques de collectionneurs ruinés ou de communautés monastiques qui désirent effectivement se dessaisir de certains exemplaires. Alors, il faut reconnaître que dans certains cas, le dessaisissement est un peu forcé, dans la mesure où on peut avoir des doutes sur la volonté de certaines communautés de se dessaisir de leurs livres, et on peut penser que le chasseur de livres soit à graisser la patte d'un bibliothécaire un peu complaisant, voire dans certains cas à brûler la politesse à ses hôtes en emportant les manuscrits avec lui. Donc il y a eu sans doute ce genre d'histoire, et ils reviennent donc souvent avec des provisions importantes de livres qu'ils vont ramener avec eux depuis donc ces terres lointaines.
Maurice Sartre, alors, c'est aussi un élargissement de la collecte?
Oui, parce que des manuscrits que personne ne lit restent inconnus, évidemment, dans certaines bibliothèques. Et donc, il est vrai qu'à la fin du Moyen-Âge, on a tout d'un coup découvert soit de nouvelles copies de certains auteurs qui étaient bien connus par ailleurs, mais il peut y avoir des manuscrits nouveaux, des livres nouveaux de certains auteurs, par exemple. Et puis, il y a même des textes dont on ignorait l'existence, et pas seulement dans les bibliothèques. Permettez-moi de vous raconter une anecdote qui est assez amusante, si on veut bien m'accorder cette épithète.
Qui est citée par Jean de Stingers, qui était l'auteur belge d'un livre très intéressant sur le hasard en histoire.
Exactement. Il y a un texte d'auteur anonyme qui s'appelle « La lettre à Diognette », qui est un texte chrétien, d'apologiste chrétien du IIe siècle. Or, il est connu par un seul manuscrit. La découverte de ce manuscrit est particulièrement drôle. Un clerc latin qui se promenait à Constantinople vers 1436 va acheter du poisson. Et il repère que le poissonnier emballait ses poissons dans des vieux papiers. Il voit un des vieux papiers écrit. Il achète l'ensemble des papiers. Il s'agissait de la lettre à Diognette, ce texte du IIe siècle. Il le remet à un dominicain qui était venu informer les gens de Constantinople de ce qui se passait au concile de Bâle. Et le dominicain emmène les vieux papiers à Bâle. Là, ils sont achetés par un érudit, un humaniste. On est quand même au début de la Renaissance, n'est-ce pas ? Qui meurt en 1522 sans avoir rien fait du manuscrit en question. Le manuscrit est transmis à l'abbaye de Marmoutier, celle d'Alsace, où il est enfin copié à la fin du XVIe siècle. Voilà un livre inconnu auparavant, qui est découvert, sauvé, mais pour un temps seulement, puisque de Marmoutier, quand l'abbaye est désaffectée, les livres sont emmenés à Strasbourg et le manuscrit est détruit pendant la guerre de 1870 par les bombardements de l'artillerie allemande à Strasbourg. Dans l'intervalle, il y a eu l'imprimerie, donc le livre a été imprimé.
Est-ce qu'on peut dire que c'est une pêche assez fructueuse ?
C'est une pêche très fructueuse, mais tous les auteurs n'ont pas eu cette chance. Et des auteurs perdus, il y en a des milliers. À tel point qu'on peut en faire la liste. Par exemple, on l'a fait pour les historiens. Il y a une énorme publication allemande qui a maintenant un siècle, pratiquement. Mais il y a toujours des volumes qui paraissent, qui essayent de regrouper tous les fragments connus d'auteurs d'œuvres d'histoire. Et il y a, il me semble, plus de 600 noms. Déjà, je dis bien qu'il s'agit que des fragments. Il n'y a pas Thucydide ou Hérodote dedans, puisque là, leur œuvre est complète. Et on s'aperçoit qu'il y a une foule de livres qui avaient été écrits sur les Arabes, sur les Indes, sur la terre entière, ou quasiment toute la terre connue, et qui sont perdus.
On est particulièrement frustré lorsqu'il s'agit d'auteurs dont l'écho a été à l'époque très, très, très brillant. Je pense au cas en particulier de Pythéas. J'aimerais que vous y attardiez un instant, il est topique à mes yeux.
Pythéas avait écrit un livre de l'océan qui a eu beaucoup de succès probablement, enfin qui a été lu. Or, il n'en reste pratiquement rien. Quelques citations peu sûres, parce qu'elles sont transmises en général par des adversaires. On sait que Pythéas avait voyagé sur l'Atlantique, notamment l'Atlantique Nord, et il donnait une description du monde. Mais Pythéas n'est qu'un exemple. On possède à peu près le nom de plus de 2000 auteurs antiques.
Intégralement perdu souvent.
Intégralement perdu. Ou connu que par une citation faite par d'autres. Et il y a comme ça un certain nombre d'auteurs, comme Athénée par exemple, qui organise ce qu'il appelle le banquet des sophistes, où on fait assaut d'érudition et de bons mots en citant des auteurs qu'on ne connaît parfois. Mais alors, il nous reste une phrase, un vers. Mais même si on prend des auteurs très connus, Eschyle, l'auteur tragique athénien, est crédité de 90 tragédies. Il nous en reste 7 et des fragments de 4, c'est-à-dire pas grand-chose. Imaginez que pour Racine, Molière ou Corneille, on sache qu'ils aient écrit je ne sais combien et qu'on ait un dixième, même pas, de leur œuvre.
Ils étaient moins productifs, à vrai dire.
Ils étaient un peu moins productifs, c'est vrai. Je sais pas combien ils ont écrit les uns et les autres, mais je crois pas que un seul d'entre eux ait écrit 90 pièces. De même, si vous prenez Sophocle, 123 tragédies et drames satiriques, on connaît 114 titres. Il y a là aussi 7 pièces conservées.
Et quand on songe à l'incroyable influence que cette œuvre a eue sur la pensée, sur les écrits, sur la littérature, sur la réflexion occidentale jusqu'à la période la plus récente, on est saisi par ça.
On va prendre l'exemple d'un auteur comique, Ménandre. Ménandre, on ne sait pas combien il avait écrit de comédies, mais on connaît, d'après une anecdote, que le poète latin Terence était venu recopier ses pièces. Et il était reparti à Rome avec 108 pièces de Ménandre. À la fin du 19e, nous n'avions que des poussières de Ménandre, quelques phrases, quelques allusions, il ne restait rien.
Alors justement, voyons comment les choses ont changé à partir de cette poussière. Je vous propose cet extrait d'une interview du professeur Jean-Christian Dumont, professeur à Nanterre, qui est extrait du documentaire « Une vie, une œuvre », consacré précisément à Ménandre, un documentaire de Régis Labourdette qui avait été diffusé sur France Culture en juillet 1991. Écoutons-le et vous me direz si vous agréez cette analyse et ce récit. Maurice Sartre.
Si on peut penser que Jules César allait encore au théâtre pour y voir des pièces de Ménandre, il faudra passer par-dessus le siècle ou plus tard qu'à son tour, n'est-ce pas, un siècle plus tard, dit que ça ne vaut pas la peine d'aller au théâtre si ça n'est pas pour y voir du Ménandre, pour arriver dans ces périodes où on a cessé apparemment de recopier les pièces de Ménandre et où Ménandre est devenu, disons son œuvre, est devenue pour nous une poussière de fragments. Et lorsque Goethe disait que, à son avis, Ménandre était peut-être plus grand qu'Homère, eh bien, il faut se dire que Goethe n'avait plus que quelques fragments cités par des grammairiens, par des anthologies. Il ne pouvait plus lire une pièce de Ménandre. Il faut attendre la fin du XIXe siècle pour pouvoir de nouveau lire une scène de Ménandre. Car ce qui était resté, c'était uniquement des répliques ou des maximes bien senties de Ménandre qu'on publiait du reste en recueil de maximes que les gens aimaient pouvoir citer, les orateurs en particulier. À la fin du XIXe siècle, dans le bâtiment qui nous fait face en ce moment et qui est le bâtiment de la Bibliothèque publique et universitaire de Genève, est arrivé un papyrus qui comportait une scène entière d'une comédie appelée « L'agriculteur » de Ménandre. Et c'était alors, pour la première fois depuis des siècles, qu'on a pu lire une scène de Ménandre.
Le cas est vraiment représentatif, Maurice Sartre, Ménandre.
Le cas de Ménandre est particulièrement intéressant parce que il y a un fossé entre sa célébrité dans l'Antiquité et ce qu'on en connaissait donc à la fin du XIXe siècle. C'est à partir de 1907 qu'on a commencé à redécouvrir Ménandre, d'abord une scène, et puis dans certains papyrus d'Oxyrhynchos, c'est-à-dire là aussi dans le Fayoum, qui est un grand réservoir de papyrus et de copies d'auteurs antiques, mais aussi dans la bibliothèque gnostique de Nag Hammadi en Moyenne-Égypte, où il se trouvait trois pièces entières de Ménandre. Et le résultat, on est bien loin de connaître toute son œuvre, puisque, je le rappelais, il y avait 108 pièce connue au moins à l'époque de Terence, qui a beaucoup copié Ménandre et l'a traduit en latin en quelque sorte. Mais on a aujourd'hui 6 pièces complètes ou presque. Il y en a une seule qui est vraiment complète, mais les autres, il manque pas grand chose. Et puis, donc, presque, la seule complète, c'est le Discolosse, le bourru, parfois on dit le misanthrope aussi. D'autres, presque complètes, comme le bouclier, l'arbitrage, la samienne. Et puis, pour d'autres, on a de longs fragments, la tondue ou les sicioniens.
Mais ces découvertes ne remontent qu'à une période toute récente, en 1907, dans un lieu qui s'appelait
Oxyrhynchos. C'est un grand site de papyrus, plus de 50 volumes publiés déjà. Donc, le papyrus a permis de retrouver, non pas toutes les pièces, mais quand même du Ménandre réel, une pièce complète. D'avoir qu'un vers ou qu'une partie d'un vers, ça peut être très intéressant. Je vais vous donner un exemple avec Euripide. Je vais revenir à la découverte d'Euripide qu'on a évoquée en ouverture. Et l'intérêt des papyrus, c'est que là, on a des copies antiques. Euripide, qu'on évoquait tout à l'heure, on a une copie d'Euripide du IIe siècle après.
Et on n'y accède pas seulement par les copies, par conséquent, plus ou moins fallacieuses du Moyen-Âge.
Absolument. D'autant, parce que les copies du Moyen-Âge nous ont livré un certain nombre de pièces, mais les fragments qu'on a d'autres pièces sont livrés presque essentiellement par les papyrus. Je vais vous donner un petit exemple de cette tragédie que j'ai évoquée tout à l'heure, Polyidos. Le personnage est totalement inconnu. Polyidos est un devin qui est au service de Minos et de Pasiphae. Ça vous renverra à quelque chose.
C'est-à-dire la file de Lino et de Tapiphané, comme on disait à l'école normale, à propos de ce vers fameux de Racine, extrait de Phèdre.
De Phèdre, évidemment. Et ce devin est chargé, en fait, de ressusciter le fils de Minos et de Pasiphae, dénommé Glaucos, qui est tombé dans une jarre de miel. Bon.
C'est un accident qui pourrait nous arriver à tous.
Ça dépend si vous consommez beaucoup de miel ou pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que le fragment qu'on a trouvé est un débat entre Minos et son devin sur la nature du pouvoir. Et je ne résiste pas au plaisir de vous lire, si vous le permettez,
je vous en prie.
Deux lignes. Le devin dit au roi, « Tu es riche, mais ne pense pas que tu comprends tout le reste. L'incompétence naît de la prospérité. Comme un fou, tu essaies de renverser les lois établies et de bouleverser les règles. » C'est d'une troublante actualité. Trouvez pas ?
Si, vous êtes dans l'émission qui s'appelle Concordance des temps, Maurice Sartre.
Merci.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Il est clair, Maurice Sartre, que le cas de Ménandre, sur lequel nous sommes arrêtés un instant, est loin d'être isolé.
Oui, heureusement. D'une certaine manière, il y avait d'autres auteurs dont on connaissait le nom, dont on connaissait la popularité et qui parfois sont redécouverts. Par exemple, Pindare, l'auteur bien connu des odes pour les vainqueurs dans les grands concours, avait un rival, Bacchylide, dont toute l'œuvre était entièrement perdue.
Formidable malchance, en somme.
Formidable malchance, ou chance pour Pindare, malchance pour Bacchylide, probablement. Or, à partir de 1897, on a découvert plus de très longs fragments de 20 poèmes différents, des poèmes chantant aussi les vainqueurs au concours, des poèmes absolument formidables, extrêmement émouvants, tout à fait différents de ceux de Pindare, mais très importants. Je vais prendre un autre exemple, qui est un exemple historique. On a découvert en Égypte, encore, évidemment, ce qui est normal pour les papyrus, puisque c'est surtout en climat sec qu'ils se conservent, on a trouvé trois fragments, successivement en 1906, 1934 et encore 1976, des papyrus du 1er et 2e siècle, qui portent la suite de l'histoire de Thucydide. Vous savez que la guerre du Péloponnèse de Thucydide, il arrête son récit à un moment donné, en 411, en gros, et on a une suite par Xénophon, mais on a aussi une suite anonyme, car on ne connaît pas l'auteur. On a des idées, mais je laisse de côté les spéculations là-dessus. Donc, ce texte anonyme, qu'on appelait hellénique parce que ça ressemble aux helléniques de Xénophon, c'est la poursuite de l'œuvre de Thucydide, la guerre du Péloponnèse, et avec simplement des informations qu'on ne trouvait pas chez Xénophon. Donc voilà un autre exemple. Et puis il y a un exemple qui est bien connu, je terminerai là-dessus sans le développer, la Constitution des Athéniens. Le manuscrit a été publié en 1891, découvert peu avant. C'était là aussi un papyrus et qui nous donne à la fois l'histoire et la description du fonctionnement des institutions athéniennes par l'école d'Aristote. Donc voilà des exemples très frappants. Il y en a un autre, mais qui est très différent et qui est beaucoup plus récent, c'est la bibliothèque d'Herculanum.
Je voudrais en effet que nous nous y arrêtions un instant au cœur de cette émission consacrée, Maurice Sartre, à la grande question de la transmission de la littérature au sens large de l'Antiquité. Herculanum, de fait, où on a retrouvé un bon nombre de papyrus. Et en voici un exemple d'un papyrus qui a été interprété, compris tout à fait récemment grâce à l'intelligence artificielle. Tout bouge dans ce domaine. C'est un extrait d'un reportage télévisé de Florence Crimon sur Herculanum et les parchemins calcinés, diffusé dans Télématin sur France 2 le 8 février 2024.
On dirait un morceau de bois calciné. C'est en fait un papyrus vieux de 2000 ans, complètement carbonisé lors de l'éruption du Vésuve en l'an 79. Le rouleau est très fragile. Alors, pour découvrir les secrets qu'il renferme sans risquer de l'effriter, les chercheurs ont eu une idée ingénieuse. Le dérouler virtuellement grâce à l'intelligence artificielle. Ils l'ont numérisé pour révéler l'encre des lettres à l'aide de rayons X.
Le papyrus n'a pas été déroulé de façon mécanique. Il a été simplement scanné avant d'être replacé dans la bibliothèque. De cette façon, il n'y a eu aucun dégât.
2000 lettres de l'alphabet grec ont été déchiffrées. Selon les spécialistes de l'Antiquité, le texte aurait été rédigé par le philosophe épicurien Philodème. Il parle de nourriture, de musique et des plaisirs de la vie. 600 fragments et 200 rouleaux sont stockés à la Bibliothèque nationale de Naples et attendent d'être décryptés.
Les papyrus enroulés et fermés, je les ai toujours vus comme des objets fascinants, avec des formes incroyables, mais inaccessibles. On est désormais prêt à lire tout ce que les papyrus d'Herculanum ont à nous dire.
Au début, quand on a trouvé pour la première fois ces papyrus, on les a peut-être un peu abîmés, non, Maurice Sartre ?
Oui, il y a sûrement eu des destructions. Alors, il faut rappeler que ces papyrus d'Herculanum ont été trouvés pour une grande partie dès le milieu du XVIIIe siècle. Mais curieusement, ils ont été mis de côté parce qu'on ne savait pas trop que faire. C'était calciné, il n'y avait aucun moyen évidemment de les dérouler.
Si on essayait de les dérouler, en fait, on l'a fait quelque
voilà, fois. On les détruisait en fait. Il s'agit en fait de 1838 rouleaux de papyrus. Donc c'est pas rien, c'est vraiment une bibliothèque. Tout ça a été calciné, ça n'a pas brûlé comme quand on jette du papier dans une cheminée là où il reste rien, ça cuit à l'étouffée si j'ose dire, ce qui fait que le rouleau reste intact, mais comment le dérouler? Si on le déroule, on le casse, on le détruit. Alors, peut-être deux mots quand même du contexte. Il s'agit d'une villa d'Herculanum qui appartenait à un certain Lucius Calpurnius Pison, qui est bien connu, qui a été consul en 58 avant Jésus-Christ, c'est le beau-père de César par sa quatrième épouse. Bon, enfin, c'est un détail. Et il abritait sans doute un philosophe épicurien bien connu, originaire du Proche-Orient, Philodémos de Gadara. Gadara est une ville du nord-ouest de la Jordanie.
Voilà votre Philodème qui vous est cher, Maurice.
Oui, il m'est cher pour des tas de raisons, et en particulier celle-ci. Et il avait... à Herculanum, reconstituer une bibliothèque épicurienne. Donc c'est une richesse inouïe qui est là. Prudemment, les archéologues ont laissé les papyrus de côté pendant très longtemps. À partir de 1824, ils ont essayé quand même d'en lire quelques-uns, il y en avait quelques-uns, et il y a eu déjà des publications assez intéressantes dans le courant du 19e siècle. Mais c'est surtout depuis la fin des années 90... que grâce d'ailleurs à des fonds européens qui soutiennent l'entreprise, on essaye de lire ces manuscrits brûlés et on y arrive comme l'extrait vient de nous le faire comprendre. Et on a donc identifié ainsi 36 traités de Philodémos de Gadara. Et donc on a là tout d'un coup, s'ajoutant à la seule œuvre qui jusque présent nous renseignait vraiment sur Épicure, c'est-à-dire le De Naturarum de Lucrèce, on a maintenant l'œuvre de Philodémos de Gadara, qui est en cours de publication, tout n'est pas publié. J'ajoute tout de suite que dans ces papyrus d'Herculanum, il y a aussi des œuvres qui sont des copies d'autres. Par exemple, j'ai lu pour tout à fait autre chose, une copie des caractères de Théophraste, le célèbre ancêtre de la Bruyère. Donc, vous voyez qu'il y a là un travail extrêmement important qui est en cours et qui nous montre à quel point, lorsqu'on ne sait pas comment traiter, il vaut mieux garder, se dire, le progrès de la science fera peut-être qu'un jour, on saura lire.
Il faut beaucoup de modestie.
Eh bien, les gens d'Herculanum, les archéologues, je veux dire, ont été modestes et on a la chance d'avoir, au XXIe siècle, les moyens de pouvoir lire des papyrus calcinés. Il y en a d'autres exemples qui ne sont pas littéraires, mais on a fait la même chose à Petra. Les Finlandais ont lu une pile de papyrus calcinés qui avait été conservée dans une église. Donc, vous voyez qu'il y a là, dans les papyrus en général, une masse de possibilités. C'est probablement par les papyrus que l'on pourra acquérir le plus de nouveaux textes à l'avenir. Ça, c'est probable.
Il faut aussi dire un mot des palimpsestes. C'est un mot qui était très cher à Saint-Jean-de-Perse, naturellement. Les palimpsestes, rappelez-nous ce qu'étaient les palimpsestes.
Le palimpseste, c'est donc un manuscrit qui a été écrit une première fois, que l'on a gommé Alors, en fait, on frotte l'encre, l'enlève à la pierre ponce, parce qu'on n'a pas les gommes comme on les connaît, nous, et on réécrit par-dessus, parce que le papier coûte très cher, le papyrus ou le parchemin, peu importe, ça coûte très cher, et donc on réutilise deux ou trois fois, parfois plus, la même feuille, parce que le texte qui est en dessous n'a pas d'intérêt, ou on le juge, si c'est des chrétiens, que sur une comédie d'Aristophane, on craindra pas d'effacer tout pour écrire quelque hymne chrétien, par exemple.
Donc on retrouve beaucoup
et
de
alors,
choses.
Et alors, on peut les retrouver. Et là aussi, les progrès de la technique font que on peut lire un palimpseste sans effacer le texte réécrit par-dessus. Et parfois, on peut lire donc deux ou trois couches successives d'écrits les uns sur les autres. Donc les palimpsestes sont extrêmement intéressants aussi. Ça permet aussi parfois de dater justement certains manuscrits. Donc c'est une autre source.
Sur ce vaste domaine des palimpsestes, Maurice Sartre, écoutons donc cet extrait d'un reportage sur les trésors de papier du monastère Sainte-Catherine, qui a été diffusé dans l'émission Grand Reportage sur RFI Radio France Internationale le 17 janvier 2018. Et nous allons entendre Michael Phelps, qui est président de l'Early Manuscript Electronic Library.
La collection de manuscrits du monastère Sainte-Catherine est particulière. Elle compte le plus grand nombre de palimpsestes au monde, au moins 160. Un palimpseste est un document où se chevauchent plusieurs textes sur une même page. À l'époque, le papier coûtait très cher. Les scribes avaient donc pour habitude d'effacer à la pierre ponce un texte déjà ancré pour pouvoir réutiliser le parchemin. Le pari fou de réussir à déchiffrer les textes effacés, il y a de cela des centaines d'années. Michael Phelps retrace cette folle aventure et les nombreuses découvertes de l'équipe.
Nous avons réuni 40 personnes, des dirigeants, des scientifiques, des photographes, pour un projet de 5 ans au monastère Sainte-Catherine. L'idée était d'utiliser les technologies les plus sophistiquées du moment, appliquées au patrimoine culturel, notamment l'imagerie multispectrale. Le but étant de découvrir les couches effacées des palimpsestes qui se trouvent ici. Et les découvertes sont incroyables. Nous pensions que ce monastère était isolé, reculé dans le désert, mais nous avons trouvé 10 langues différentes conservées sous les couches des textes. Et ces textes datent du 5e au 12e siècle. Des bibles, des ouvrages de théologie, des prières et des liturgies, tout ce que vous pouvez trouver dans un monastère. Mais ce qui a été le plus excitant pour les universitaires, ce sont les textes classiques qui ont été découverts. L'un des textes effacés montre les restes d'une bibliothèque médicale. Il y a 6 textes de médecine, 3 sont d'Hippocrate, certes déjà connus, mais ce sont les plus vieilles copies que nous avons trouvées à ce jour. Elles ont plus de 400 ans. Et puis il y a 3 autres textes médicaux qui, eux, n'étaient pas du tout connus des spécialistes et universitaires. L'un d'eux donne une méthode pour des opérations chirurgicales. Il y a aussi un poème mythologique qui a été découvert. Il date du 5e siècle. Il mentionne Perséphone, Hadès, Zeus. Ce sont des figures de la mythologie classique. Voilà quelques exemples des joyaux que vous pouvez trouver dans les textes classiques, très populaires dans le monde antique, qui ont été découverts parfois sous 9 couches de texte.
Voilà qui illustre, Maurice Sartre, votre propos sur les palimpsestes. Je voudrais enfin que nous fassions un sort à l'épigraphie, car c'est aussi une autre source, une autre manière de connaître cette littérature antique.
Oui, vous avez raison, parce que souvent on oublie l'épigraphie dans la transmission des textes antiques. Et c'est une erreur. D'abord parce que l'épigraphie nous livre parfois des noms d'auteurs. On connaît pas l'œuvre, mais au moins on a le nom d'auteur. Quand on vous dit qu'un tel est un poète ou un historien en vers, c'est qu'il fait des poèmes historiques. Alors, les épigrammes, il faut le rappeler, ce sont les inscriptions grecques qui sont versifiées. Elles peuvent être funéraires, c'est le plus grand nombre, mais elles peuvent s'adresser aussi à un personnage célèbre que l'on veut honorer. Ça peut être la construction d'un bâtiment. L'épigramme, c'est par définition versifié selon les critères de la versification grecque. Il y a des auteurs dont on ne connaît l'œuvre que par des copies épigraphique sur la pierre. Il y en a un qui est très célèbre, il est peut-être peu connu du grand public, mais il s'appelle Diogène d'Oinohanda. Oinohanda est une ville de Lycie, c'est-à-dire le sud-ouest de la Turquie. c'est la plus longue inscription grecque jamais trouvée en 1884. Elle couvrait 260 mètres carrés. Il y avait à l'origine, tout n'est pas conservé, je le dis tout de suite, mais on sait à peu près ce qu'il devait y avoir à l'origine. 25 000 mots, un mur de 80 mètres de long, et il reste le tiers ou le quart de l'inscription. L'inscription comprend 3 traités écrits par Diogène, ainsi que divers lettres et maximes, un traité sur l'éthique, un traité sur la physique, un traité sur la vieillesse, qui semble avoir défendu d'ailleurs la vieillesse contre les ricanements des jeunes.
Ça, c'est très bien.
Oui, on est d'accord. Une petite partie de ce traité a survécu. Et puis des lettres de Diogène à ses amis, des maximes épicuriennes, et des lettres, et même des lettres d'Épicure, comprenant notamment une lettre d'Épicure à sa mère sur le thème des rêves et de la vie philosophique. Voilà un exemple extraordinaire, mais dans le fond, quand on pense qu'on a aussi gravé des textes de loi, par exemple à Agortine, on a tout un code de loi qui a été gravé sur des murs. C'est aussi un monument de la littérature juridique.
Il faudrait peut-être pour l'avenir graver Marcel Proust sur de la pierre pour être sûr qu'il survive.
Je vous laisse la responsabilité de cette remarque. L'autre aspect, c'est qu'il y a toute une littérature anonyme ou quasi anonyme qui existe sur la pierre, c'est notamment les épigrammes et notamment les épigrammes funéraires. Il y a des milliers d'épigrammes funéraires de qualité variée, mais c'est comme toute littérature, il y a les bons et les mauvais. Ces épigrammes anonymes, s'ajoutent à ce qu'on connaît par les recueils gardés sur des copies manuscrites de l'anthologie grecque, par exemple. Et je voudrais signaler, par exemple, une des plus belles épigrammes funéraires que l'on connaisse a été trouvée en Afghanistan, à Kandahar, c'est-à-dire à l'extrémité du monde grec. Et elle est l'œuvre d'un Indien. Ce n'est pas un Grec, car le nom qu'il porte est un nom indien. Il s'appelle Sophitos, fils de Naratos. On connaît son nom d'une manière très simple, c'est qu'en réalité, il a procédé par acrostiche, le début de toutes les lettres de chaque ligne, des 20 lignes, des 20 vers de l'épigramme, donne son nom et son patronyme.
On dispose d'une traduction grâce à Georges Rougemont, et je ne me prive pas du plaisir de lire quelques lignes de cet épigramme. C'est l'histoire qu'on pourrait trouver peut-être contemporaine de quelqu'un qui est le fils de quelqu'un de très riche qui devient ruiné, qui à son tour reconstruit une richesse, une fortune. Oui. Écoutez cela. Longtemps, la maison de mes aïeux avait été florissante quand la violence irrésistible des trois moires l'anéantit. Je rappelle que les moires, ce sont des divinités du destin. Ça concerne notre émission consacrée au hasard à propos des manuscrits de l'Antiquité, c'est-à-dire Clotho la fileuse, Lachésis la répartitrice et Atropos l'influente. Quand la violence irrésistible des trois moires l'anéantit. Et moi, tout jeune et privé de la fortune de mes pères, moi, Sophitos, dénûment pitoyable, de la race de Naratos, ayant utilisé les talents de l'archer et des muses, uni à une noble sagesse, la sienne, c'est pas immodeste, uni à une noble sagesse, alors je réfléchis au moyen d'élever bien haut la maison de mes pères à nouveau. Et ayant reçu d'autrui de l'argent à faire fructifier, je quittai mon pays, résolu à n'y point revenir avant d'avoir élevé bien haut un monceau de richesses. C'est pourquoi, me livrant au commerce et me rendant dans de nombreuses villes, j'ai récolté, sans subir nul dommage, une vaste fortune. Fin de citation.
Donc voilà un exemple, c'est d'un Grec parfait, c'est une épigramme d'un Grec parfait, c'est une œuvre littéraire à l'évidence, mais des épigrammes pas forcément aussi développé que celle-ci, qui fait quand même 20 lignes. Il y en a un peu partout, du sud de la Gaule, de l'Espagne jusqu'à la Syrie, et vous le voyez même jusqu'à l'Afghanistan. Je crois qu'aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a des transmissions indirectes.
C'est-à-dire, Maurice Sartre?
Je veux dire par là qu'il y a des œuvres que nous connaissons parce que, par chance, elles ont été traduites dans d'autres langues.
On n'a pas l'original, mais on a la traduction.
On a la traduction.
Comme si on ne connaissait Shakespeare qu'en français.
Voilà. Imaginons qu'on ait perdu une pièce de Shakespeare et qu'on ne connaisse que la traduction française.
On peut tenter de la retraduire en sens inverse, mais ce serait un résultat risqué.
Mais c'est quand même un peu ce qui est arrivé, par exemple, pour Aristote, puisqu'on a évoqué Aristote plusieurs fois ici. Aristote, longtemps, a été connu par l'Occident latin que par la traduction en latin des manuscrits arabes d'Aristote. Et il y a donc toute une littérature en syriaque, arabe, en géorgien, en arménien, en éthiopien, d'œuvres grecques, et que nous ne connaissons que ceci. Si vous me permettez, je vais vous donner un exemple qui me tient à cœur, parce que l'auteur en question s'appelle Titus de Bosra, c'est l'évêque de la ville de Bosra en Syrie, qui est cher à mon cœur pour des tas de raisons.
Vous avez beaucoup travaillé sur...
C'est le titre de ma thèse. Donc, Titus de Bosra est l'ennemi intime de Julien l'Apostat. Il avait été l'auteur d'un traité sur les manichéens en 4 livres, dans la version grecque et conservée jusqu'au début du livre 3. Mais suite à un accident de codex, c'est-à-dire que ils ont mélangé deux livres, les pages se sont défaites, ils ont mélangé deux. Le livre a été composé et refait dans le désordre, il a été mélangé avec celui d'un autre auteur. Et il se trouve que manuscrit grec du mont Athos, du XIIe siècle, donne le bon texte. Mais il s'arrête lui aussi au début du livre 3. Mais une version syriaque complète, réalisée très tôt, existe dans un manuscrit syriaque de 411 réalisé à Édesse. Donc vous voyez que la littérature grecque, les auteurs grecs peuvent se transmettre aussi par le syriaque, l'arabe ou n'importe quelle autre langue.
Encore une manière de rencontrer ce hasard qui domine le sujet que nous avons traité aujourd'hui, la pérennité ou non de la littérature de l'Antiquité. Votre bibliographie est très très vaste, je vais donc choisir seulement 2 titres, les autres se trouveront largement en ligne sur notre site. D'abord un livre qui m'est cher, qui sont les Histoires grecques, un livre de 2006. C'est une sorte de série de nouvelles sur des moments particuliers dont vous tirez beaucoup d'informations, n'est-ce pas ?
Oui, absolument, c'est le type même de livre décousu, mais on peut le lire dans tous les sens.
Eh bien, qu'on le lise, et puis... Très récemment, vous avez publié Le bateau de Palmyre, quand les mondes anciens se rencontraient. Palmyre vous est cher et votre cœur a saigné récemment.
Oui, même si la fin de la guerre a malgré tout mis un petit peu de baume, mais il y a tellement à faire pour reconstruire un pays dévasté qu'il faut attendre.
Nous avons cité Chemin faisant, le livre que j'aime beaucoup de Jean Stengers, un historien belge, Le vertige de l'historien, l'histoire au risque du hasard. Il y a notamment des pages intéressantes sur ce thème que nous avons traité aujourd'hui, le hasard dans le domaine de l'héritage de l'Antiquité. C'est une édition de 1998, Les empêcheurs de penser en rond. Et puis naturellement, c'est une occasion que je ne peux pas manquer de rappeler que nous avons publié Maurice Sartre récemment, sous les auspices de France Culture et des éditions Flammarion, un recueil de 18 de nos conversations que nous avions intitulé « Vers un pays lointain, dialogue sur l'Antiquité ». Merci beaucoup, merci Maurice Sartre.
Merci à vous.
C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Vincent Abouchard, avec à la prise de son Andreas Jaffré, avec Keating Wang à la discothèque et Clary Monac pour les archives de l'Institut national de l'audiovisuel.